Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. L'Europe incapable de trancher la question du glyphosate. Le comité des experts de l'UE n'a pas pu se prononcer ce matin sur le renouvellement ou non de l'herbicide. La France veut limiter à 3 ans ce renouvellement. Les explications de Laxmilota dans un instant et la première réaction du ministre Nicolas Hulot. Les négociations sur le Brexit ont repris tout à l'heure à Bruxelles. L'Union européenne veut un accord rapide avec Londres. Mais la première ministre britannique, Theresa May, est de plus en plus fragilisée dans son pays. Nous ferons le point avec Quentin Dickinson. En Syrie, l'État islamique a perdu la dernière ville qu'il contrôlait, Bou Kamal, reprise hier par l'armée du régime Assad. Daesh reste présent dans des zones désertiques à cheval sur la frontière irakienne. Le décryptage à suivre d'Éric Biégala. En France, l'association Anticor porte plainte contre Richard Ferrand. Le mois dernier, le parquet de Brest avait classé l'enquête visant le patron des députés macronistes pour prise illégale d'intérêt. Richard Ferrand a reçu le soutien du président de l'Assemblée, François de Rugy. L'analyse politique de Sophie Delpont à la fin de cette édition. S'il fallait un symbole des divisions européennes, le glyphosate ferait parfaitement l'affaire. Les 28 États membres de l'UE ont une nouvelle fois échoué ce matin à adopter une position commune sur l'herbicide. Aucune majorité ne s'est dégagée pour annuler ou prolonger la licence du produit. Rappelons que l'Organisation mondiale de la santé a classé le glyphosate dans la catégorie des cancérigènes probables. La Commission européenne voulait un renouvellement de la licence pour 5 ans, licence qui arrive à expiration le 15 décembre prochain. On retrouve à Bruxelles Laxmilota.
Il n'y a pas eu de majorité claire, ni pour ni contre. Les États membres restent divisés sur la question du glyphosate. Les pays qui pèsent au niveau démographique, comme la France, ont voté contre. Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, s'est d'ailleurs dit fier cet après-midi que la France est, je cite, « tenue bon ». La Commission européenne va maintenant soumettre sa proposition à un comité d'appel d'ici la fin du mois. Des amendements pourront être proposés par ses membres pour peut-être arriver à un accord, mais plusieurs ONG dont l'Observatoire de l'Europe des entreprises en doute et craignent que l'exécutif européen ne soit en réalité passé en force. En effet, s'il n'y a toujours pas de majorité qualifiée après le vote du comité d'appel, la Commission a le droit de décider seule de reconduire la licence de l'herbicide pour 5 ans. Ce n'est pas le but affiché de l'institution. Le commissaire à la santé assure qu'il ne souhaite pas prendre seul la responsabilité politique de cette décision. Si personne ne tranche avant le 15 décembre, le glyphosate ne sera plus utilisable ni commercialisable au sein de l'UE au bout de 18 mois de délai.
Laxmilota du bureau de Radio France à Bruxelles. On va d'ailleurs écouter la réaction du ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Nicolas Hulot qui considère que le vote de ce matin n'a pas été inutile pour faire avancer la position française sur le glyphosate.
Déjà, on a franchi une étape, hein. On était parti pour réautoriser pour 10 ans. La France tient bon sur 3 ans. C'est normal que le passage de 10 ans à 3 ans se fasse pas d'une manière si fluide, mais voyez bien qu'on avance. Derrière tout ça, c'est que maintenant tout le monde a inscrit dans son logiciel que au-delà d'une réautorisation, qu'elle soit pour 3 ou pour 4 ans, ce sur quoi il faut travailler, c'est comment on va petit à petit, mais assez rapidement, s'affranchir de toutes ces molécules. Alors, ça va repartir. Rendez-vous compte quand même que sans l'intervention de la France, et je le souligne, il n'est pas exclu qu'on soit reparti pour 10 ans. Donc, il en est de ce sujet comme d'autres. Moi, j'ai toujours expliqué que ce qui m'intéresse, c'est qu'on mette les sujets non pas sous la table, mais sur la table. Ce sujet est mis sur la table, on a changé d'échelle, on a changé d'approche. Maintenant, on n'est pas simplement dans un schéma d'ajournement successif, on a décidé de prendre le sujet à bras le corps.
Nicolas Hulot. On reste à Bruxelles pour évoquer la reprise des négociations sur le Brexit aujourd'hui. L'Union européenne souhaite aboutir à un accord d'ici la fin du mois sur les termes du divorce. Mais les Britanniques ont du mal à adopter une position claire. Il faut dire que la première ministre Theresa May est en pleine tourmente politique à Londres. Deux membres de son gouvernement viennent de démissionner coup sur coup et elle ne dispose plus d'une majorité absolue au Parlement. Nous sommes en ligne avec Quentin Dickinson à Bruxelles. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Quentin, il s'agit de la 6e séance de négociation sur le Brexit. Est-ce qu'il y a eu des progrès aujourd'hui ?
Mais revenons un petit peu en arrière, Stanislas, si vous voulez bien. Au début, on avait proclamé qu'il y aurait une semaine de négociations intenses tous les mois. Dans les faits, on est rarement parvenu à dépasser les 2 jours mensuels. Plus récemment, on avait juré d'accélérer la cadence de la négociation. En réalité, c'est plutôt le contraire qui s'est produit, de sorte que l'on a entamé aujourd'hui, vous le disiez, la 6e joute, sans que le bilan cumulé soit autre chose qu'un simple inventaire des difficultés à résoudre. Rappel du cadre, il y a 2 phases prévues. D'abord celle du règlement du divorce, ensuite celle de la définition des futures relations économiques entre Londres et l'Union européenne à 27. Mais le démarrage de la 2e phase est conditionné par des progrès suffisants enregistrés dans la 1ère phase, ce qui au jour d'aujourd'hui n'est franchement pas le cas. Les Britanniques pensaient obtenir ce démarrage en allant plaider leur cause à gauche et à droite dans les capitales des 27. Ce fut en pure perte, chacun leur rappelant courtoisement qu'il ne saurait y avoir qu'une seule négociation autour d'un seul négociateur, Michel Barnier. Ce n'est donc pas au sommet européen des 19 et 20 octobre dernier que la décision a pu être prise, contrairement aux intentions initiales. Mais parti comme c'est, il n'est que difficilement concevable qu'on puisse constater des progrès suffisants lors du prochain sommet, prévu les 14 et 15 décembre. Du coup, les contraintes de calendrier deviennent critiques et l'on ne peut plus exclure l'hypothèse de l'absence d'accord à laquelle d'ailleurs se préparent depuis quelques semaines les services de l'État britannique.
Quentin Dickinson en direct de Bruxelles, j'évoquais à l'instant les démissions en cascade au sein du gouvernement de Theresa May. Dernière en date, la secrétaire d'État au développement Priti Patel qui a démissionné hier car elle avait rencontré des personnalités politiques israéliennes sans en informer son gouvernement. Priti Patel a été remplacée aujourd'hui par Penny Mordaunt au poste de secrétaire d'État au développement international. Penny Mordaunt est une militante favorable au Brexit. On en vient maintenant à la crise catalane, suspendue aujourd'hui à une décision de justice. La présidente du Parlement catalan, Carme Forcadell, a été entendue ce matin à Madrid par un juge de la Cour suprême espagnole. Elle fait l'objet d'une enquête pour rébellion après la proclamation unilatérale de l'indépendance fin octobre. Le juge doit décider d'ici ce soir s'il envoie ou non en prison Carme Forcadell. On retrouve à Barcelone notre envoyé spécial Marie-Pierre Véraud. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Marie-Pierre, cette décision de la justice espagnole d'incarcérer ou non la présidente du Parlement catalan aura bien sûr un impact politique majeur en Catalogne.
Ah oui, hein, une décision d'incarcération ne manquerait pas de donner de la force aux militants indépendantistes qui réclament la libération de ce qu'ils appellent des prisonniers politiques, les ministres du gouvernement catalan incarcérés à Madrid. D'ailleurs, devant la Cour suprême depuis ce matin, des bataillons de manifestants donnent de la voix. Ils ont accueilli l'arrivée de la présidente du Parlement catalan au cri de « Vous n'êtes pas seul ». Tandis qu'en face, les adeptes du maintien de la Catalogne au sein de l'Espagne demandaient bruyamment la prison pour Carles Puigdemont. Nul doute que si les responsables du Parlement devaient rejoindre ceux de l'exécutif catalan derrière les barreaux, eh bien la tension ne pourrait que croître. Ce serait un peu comme jeter de l'huile sur le feu alors que les indépendantistes s'apprêtent ce samedi à manifester en force à Barcelone. Alors Carmen Forcadell, la présidente du Parlement, a accepté ce matin de répondre aux questions du parquet. Ce qui n'avait pas été le cas des conseillers de Carles Puigdemont lorsqu'ils avaient été entendus par la juge de l'audience nationale. Eux ne répondaient qu'aux questions de leurs avocats. Madame Forcadell a notamment expliqué que la déclaration d'indépendance était essentiellement symbolique et elle n'aurait pas attaqué l'imposition de l'article 155 qui a placé la région sous tutelle. Alors ce changement de stratégie de défense augure-t-il d'une décision judiciaire différente? En tout cas, le maintien en liberté des parlementaires, même assorti de conditions, hein, détendrait nettement l'atmosphère. Cela pourrait aussi augurer d'une reprise par la Cour suprême de l'ensemble des dossiers visant les militants indépendantistes et en une forme de jurisprudence préparer la remise en liberté des ministres catalans, ce qui bien sûr permettrait d'apaiser les esprits et d'envisager une campagne pour les élections du 21 décembre un peu plus sereine.
Marie-Pierre Véraud en direct de Barcelone, merci. Vous étiez avec Arthur Gerbeau pour les moyens techniques. En Syrie, le régime Assad a remporté hier une victoire peut-être décisive face à l'État islamique. L'armée syrienne s'est emparée de la dernière ville tenue par les djihadistes, Boukamal, située dans l'est du pays. Selon le communiqué officiel à Damas, la prise de Boukamal marquerait l'effondrement du projet de l'organisation terroriste Daesh. Eric Biegala, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
L'armée syrienne crie victoire, mais en fait l'État islamique contrôle encore quelques portions désertiques du territoire syrien.
Oui, on a annonçant hier soir avoir pénétré dans Al-Bukamal et ce matin avoir repris la totalité de la localité, les forces pro-régime ont mis la main sur la dernière localité d'importance en Syrie, sur la moyenne vallée de l'Euphrate où les djihadistes étaient encore présents. Il semble d'ailleurs que ce ne soit pas vraiment l'armée de Bachar al-Assad qui était à la manœuvre dans cette opération, du moins si l'on en croit les emblèmes arborés par les combattants pro-régime qui se photographient ou se filment dans la ville, mais bien son allié libanais, le Hezbollah, épaulé par d'autres brigades chiites venues d'Irak. Il semble également qu'il n'y a pas véritablement eu de combat pour reprendre la ville, les djihadistes l'ayant évacué par le nord, sans doute à la faveur de la nuit. En Syrie, l'État islamique ne contrôle donc plus territorialement que quelques poches, 5 à 6 villages ou petites villes sur une soixantaine de kilomètres le long de la moyenne vallée de l'Euphrate, une longue bande de terrain plus au nord, le long de la frontière avec l'Irak, largement désertique à cet endroit, une poche de quelques kilomètres carrés en plein centre du pays, dans la province de Hama, une partie du camp de Yarmouk au sud de Damas et enfin la zone de Tassil à l'extrême sud du pays, à la frontière jordanienne. En Irak, l'État islamique est encore présent sur la frontière syrienne, dans le district de Rawa, une zone très peu peuplée, mais où, selon le Haut Commissariat pour les droits de l'homme en Irak, résideraient toujours environ 10 000 civils.
Eric, que sont devenus les milliers de djihadistes de l'État islamique en Syrie et en Irak ?
Alors ça c'est évidemment la grande inconnue du moment. Beaucoup sont morts au combat, mais il semble aussi que de très nombreux djihadistes se soient également fondus dans la masse des civils qui fuyaient les combats, notamment lors des batailles de Raqqa et de Mossoul. Plusieurs dizaines d'entre eux ont été depuis identifiés et arrêtés, mais certainement pas tous. Il y a ceux qui ont réussi à rentrer dans leur pays d'origine, plusieurs centaines en Occident, ce qu'on a appelé les revenants, et tous ne sont pas forcément identifiés. D'autres encore se sont rendus, au moins un bon millier de combattants de Hawija se sont rendus au Peshmerga kurde début octobre, juste avant que la ville ne tombe aux mains de l'armée irakienne. Et puis, il y a enfin tous ceux qui sont restés sur place, qui hantent en fait les déserts syriens et irakiens. Hier, par exemple, l'armée irakienne lançait une grande opération dite de nettoyage au sud d'Hawija, signe que des groupes armés se trouvaient toujours dans le secteur. Et ceux-là, ceux qui hantent ces déserts syriens et irakiens, sont probablement les plus nombreux.
Eric Biegala, merci. En visite aux Émirats arabes unis, Emmanuel Macron est resté prudent sur la défaite de l'État islamique. Pour le président français, la victoire sur Daesh sera totale dans les prochains mois, mais elle ne sera pas suffisante pour venir à bout de la menace djihadiste. Emmanuel Macron, qui s'exprimait devant les soldats français basés à Abu Dhabi, il a ensuite rencontré à Dubaï les représentants de la communauté française. 30 000 Français vivent dans les Émirats, parmi lesquels de nombreux entrepreneurs, ces fameux premiers de cordée chers au cœur du chef de l'État. On retrouve à Dubaï Nathanaël Charbonnier.
Il persiste des signes. Emmanuel Macron croit toujours autant dans les premiers de cordée. Il avait utilisé l'expression pour justifier la suppression de l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes, en estimant qu'une fois libérés de ce lien, les plus riches se mettront alors à investir et tirer la société vers le haut. À Dubaï, le chef de l'État a utilisé une nouvelle fois l'expression, mais avec un autre souhait cette fois, qu'il y ait de plus en plus de jeunes premiers de cordée, Emmanuel Macron.
Nous avons besoin d'une France qui réussisse dans un monde des transformations rapides, où il faut attirer les talents du monde entier pour qu'ils tirent le reste du pays. C'est cette image de la cordée que j'ai voulu prendre. Il y a toujours des premiers de cordée et c'est une bonne chose. Il faut les valoriser, les encourager, les aimer et il faut pousser tous nos jeunes à être des premiers de cordée de demain, que ce soit dans l'entreprise, dans l'art. Mais il faut que chacun d'entre eux ait présent à l'esprit le fait que quand on est premier d'une cordée, on en a d'autres derrière.
Et de poursuivre devant la communauté française en déclinant ses autres thèmes favoris, la rupture avec des systèmes qui ne marchent plus pour à l'arrivée retrouver une France gagnante.
Nathanaël Charbonnier, envoyé spécial aux Émirats. Emmanuel Macron qui va se rendre ce soir en Arabie Saoudite. Le président souhaite rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman, entretien qui s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes dans la région entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Quel avenir pour Opel, l'ancienne filiale allemande de General Motors, rachetée cet été par le français PSA? Le patron du groupe, Carlos Tavares, était ce matin à Rüsselsheim, au siège de la marque, pour présenter son plan stratégique de relance. Opel emploie aujourd'hui 38 000 salariés, dont la moitié en Allemagne, et les comptes de l'entreprise sont dans le rouge. Alors pour redresser la barre, réduction d'effectifs et renouvellement de la gamme Opel sont au programme à Kim Kasmi.
Si pour l'instant la direction de PSA ne prévoit pas de licenciement sec, la situation d'Opel n'en reste pas moins alarmiste, a estimé Carlos Tavares, le patron du groupe PSA. D'autant qu'Opel a cumulé une dette de 16 milliards de dollars depuis une quinzaine d'années. Son plan pour parvenir à l'équilibre en 2020 s'inspire d'ailleurs très fortement de celui qu'il avait mis en place lorsqu'il était arrivé à la tête de PSA, PSA qui à l'époque était au bord de la faillite. Pour y parvenir, il souhaite donc réduire de 700 euros le coût de chaque voiture Opel, mais aussi avoir des usines plus compétitive. Ce qui va passer dès 2019 par la production de deux modèles qui auront des plateformes communes, à commencer par l'Opel Corsa, mais aussi par un SUV, ce sont les petits 4x4 de ville. Ce rachat doit également permettre à Opel de bénéficier du savoir-faire de PSA pour atteindre les normes environnementales fixées par Bruxelles d'ici 2021. Quant aux syndicats, comme la CGT, ils craignent des répercussions sur les centres de recherche et développement, notamment celui de Vélizy en région parisienne ou encore celui de Sochaux, car Carlos Tavares a annoncé ce matin qu'il compte mettre en place un centre de recherche commune à l'ensemble du groupe qui sera basé en Allemagne.
Hakim Kasmi, merci. Fini la publication des chiffres du chômage à chaque fin de mois. À compter de l'an prochain, la publication du nombre de demandeurs d'emploi sera trimestrielle. Ce sont les services statistiques du ministère du Travail qui l'annoncent aujourd'hui. L'idée, Guillaume Gaven, c'est en fait d'oublier les effets de yo-yo. Il s'agit aussi de mieux mesurer les évolutions.
Prenez l'exemple de l'an dernier. 5 mois de hausse du chômage, 7 mois de baisse. Avec une publication trimestrielle, il y aurait bien eu 4 trimestres consécutifs de baisse. Forte de cette observation et de plusieurs rapports en ce sens, la DARES, la direction des statistiques du ministère du Travail, a décidé de sauter le pas. Selma Mahfouz, sa directrice.
Ça fait très longtemps qu'on dit que les évolutions mensuelles sont volatiles et qu'effectivement, il faut regarder ces évolutions en tendance. C'est pas quelque chose de nouveau, les économistes le savent aussi. Et malgré tout, effectivement, la tentation de commencer des yo-yo qui sont pas toujours très indicatifs de ce qui se passe vraiment de façon tendancielle est forte. Donc effectivement, on a décidé d'orienter un petit peu plus les commentaires vers le trimestriel.
Ce qui n'empêchera pas la publication de chiffres bruts à la fin du mois, libre à chacun ensuite de faire ses propres calculs. Mais la DARES ne communiquera plus dessus, comme sa ministre de tutelle d'ailleurs. Depuis sa nomination, Muriel Pénicaud ne commente plus les chiffres mensuels, à l'opposé de ce que faisait son prédécesseur. Elle estime que cet indicateur ne reflète pas bien l'évolution du marché du travail.
Guillaume Gaven, merci. Richard Ferrand n'en a pas fini avec la justice. L'association Anticor a porté plainte aujourd'hui à Paris pour relancer l'enquête qui vise le patron des députés LREM. Il y a un mois, le parquet de Brest avait classé sans suite cette enquête. Richard Ferrand, rappelons-le, avait été mis en cause pour une transaction immobilière conclue par les mutuelles de Bretagne qu'il dirigeait. Transaction au bénéfice de sa compagne. Le parquet de Brest avait invoqué notamment la prescription des faits présumés. Argument que conteste désormais Anticor. Sophie Delpont, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Richard Ferrand a reçu aujourd'hui le soutien à peine déguisé du président de l'Assemblée nationale, François de Rugy.
Est-ce qu'on n'est pas en train de faire perdre du temps à la justice, interroge François de Rugy à propos du recours de l'association Anticor. Une déclaration dérangeante de la part du perchoir dont le rôle est celui d'arbitre des débats républicains, selon l'historien Jean Garrigue, spécialiste de l'histoire politique.
La tradition des présidents de l'Assemblée nationale est une neutralité. Il est effectivement ennuyeux que le président de l'Assemblée nationale prenne position pour souhaiter que les poursuites s'arrêtent à l'encontre du président du groupe de La République En Marche. En tant qu'homme politique, il est fondé à le faire, mais je le répète, en tant que président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 3e ou 4e personnage de l'État par ordre honorifique, il devrait plutôt s'abstenir sur ce type de questions.
Et puis Sophie, François de Rugy a également pris position sur la question délicate des emplois familiaux croisés à l'Assemblée.
Et plusieurs députés de La République En Marche ont fait embaucher par d'autres parlementaires de leur groupe leurs enfants. Crime parfait de la moralisation de la vie politique, selon le socialiste Gérard Filoche sur Twitter. La réponse du président de l'Assemblée nationale est directe. Ces personnes fournissent, à ma connaissance, des explications qui montrent que ça n'a rien à voir avec des emplois fictifs, selon lui. Non, il n'y a pas de contournement de la loi. Des prises de position qui peuvent aussi s'inscrire dans une stratégie politique de moyen terme de la part de François de Rugy. Il s'est engagé, on s'en souvient, à remettre en jeu son mandat au perchoir à mi-parcours, c'est-à-dire dans 2 ans.
Sophie Delpont, merci. On termine ce journal avec la météo. Le temps demain sera généralement gris et faiblement pluvieux, mais grâce au Mistral et à la Tramontane, le ciel devrait rester simplement voilé sur les régions méditerranéennes. Les températures minimales restent fraîches pour la saison, entre 2 et 6 degrés en général. Les maximales atteindront 6 à 9 degrés du nord-est au Massif central et à la région Rhône-Alpes, 10 à 15 sur le reste du pays, et des pointes jusqu'à 17-18 degrés sur la Côte d'Azur et la Corse. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.